va vous reparler un peu de Brexit et beaucoup de langue anglaise à 7h21 dans Matin Première avec Pierre Marlet. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors ce jeudi, on vote au Royaume-Uni et on verra d'ailleurs si Boris Johnson obtient une majorité, lui qui promet de quitter l'Union européenne avec comme nouvelle échéance le 31 janvier 2020. Votre question ce matin, Pierre, elle est celle-ci. Après le Brexit, s'il a lieu, bien sûr, quel sera l'avenir de l'anglais, la langue anglaise dans l'Union européenne ?
Eh bien, la question se pose parce que l'anglais, au fil du temps, est devenu la langue habituelle au sein de l'Union européenne. Logique, elle est omniprésente dans le monde et donc aussi en Europe. Concrètement, il y a trois langues de travail utilisées au sein de la Commission et du Conseil européen : l'anglais, le français et l'allemand. Mais c'est bel et bien l'anglais qui est le plus fréquemment utilisé. Et au sein de la Banque centrale, qui a son siège à Francfort, en Allemagne, et dont la présidente est depuis peu la française, Christine Lagarde, l'anglais règne sans partage, c'est la seule langue utilisée. Seule exception, c'est la Cour de justice européenne de Luxembourg où on délibère en français. Et puis, il y a le Parlement qui est une véritable tour de Babel au nom de l'égalité entre les citoyens européens et leurs représentants. Chacun a le droit de parler et d'être lu dans une des 24 langues officielles de l'Union européenne. Ça fait du boulot pour les traducteurs. Ouais. 24 langues donc, mais c'est là qu'il y a un petit souci pour l'anglais, car en dehors du Royaume-Uni, François, y a-t-il, à votre avis, un autre pays qui a l'anglais comme langue officielle ?
Ah ben, l'Irlande, je suppose.
Eh oui, l'Irlande, vous avez raison, tout le monde, ou presque, parle anglais, mais pas seulement parce qu'il y a une seconde langue officielle en Irlande, c'est le gaélique. Et comme avec les Britanniques, l'anglais était déjà langue de l'Union européenne, eh bien, l'Irlande a renseigné le gaélique comme langue officielle. God damned. L'Irlande n'est donc pas une solution pour l'anglais sur le plan officiel. Alors, le problème se répète après avec le second pays anglophone de l'Union européenne, figurez-vous, qui a une autre langue nationale. Et c'est cette langue-là qui est sa langue officielle de l'Union européenne. Alors, je ne crois pas que vous la parliez, mais essayez donc de deviner, si vous tendez bien l'oreille, il y a peut-être moyen.
Flisteskin, l'idéata dan il-kors, onek li nalko, ija li inħatmu il-Malti, l-nużaw il-Malti, l-nisimaw il-Malti.
Il me semble qu'avoir distingué quelque chose qui ressemblait à Malte, quelque chose comme ça.
Oui, Malte, vous avez de l'oreille, François. Cette petite île qui a fait partie de l'Empire britannique pendant plus d'un siècle et demi. L'anglais, il y a donc droit de citer, mais aux côtés de la langue d'origine de l'île, le maltais. Bref, en résumé, à cause du maltais et du gaélique, si les Britanniques s'en vont, plus aucun pays n'aura l'anglais comme langue officielle de l'Union européenne. Alors, pour autant, le départ des Britanniques ne signifie pas nécessairement que l'anglais perde son statut de langue officielle. Pour qu'il en soit ainsi, il faudra un vote à l'unanimité des pays de l'Union européenne, ce qui ne sera évidemment pas le cas.
Il n'empêche, l'anglais ne sera plus la langue maternelle que d'un nombre très réduit d'Européens, Pierre.
Bah, écoutez, j'ai fait les comptes. Avec les Britanniques, 14% des Européens ont l'anglais pour langue maternelle. Demain, avec les seuls Irlandais et Maltais, ils ne seront que 1%, très loin derrière l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol. La question paraît dès lors légitime, faut-il garder l'anglais comme langue de travail quasi exclusive de l'Union, ou bien le français et l'allemand vont-ils reprendre du poil de la bête ?
Le souci pour le français, et encore plus pour l'allemand, c'est qu'ils sont rarement parlés comme langue étrangère par les citoyens de l'Union européenne.
Vous avez résumé tout le paradoxe. L'anglais est quelque peu devenu le latin du 21e siècle. Il est loin d'être maîtrisé par tout le monde. Mais quand on parle une langue étrangère, c'est d'abord et avant tout l'anglais, même si c'est de manière souvent imparfaite. C'est pourquoi on parle de globish, ou comme on dit parfois, broken English, anglais d'aéroport, un jargon très éloigné de l'anglais d'Oxford. Là, je parle des citoyens moyens, bien sûr. Pour ceux qui travaillent dans les institutions européennes, la maîtrise de l'anglais est sensiblement plus élevée. Mais dans les deux cas, c'est un peu la même conclusion. Les Européens peuvent-ils, après le Brexit, se priver de communiquer en anglais, puisque c'est souvent la manière la plus commode de se comprendre entre nous, y compris au sommet de l'Union. Vous voulez un exemple parlant, si j'ose dire?
Yes, please.
Eh bien, nous sommes dans les années 90, quand Jean-Luc Dehaene rencontrait son homologue luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, il parlait en français. Quand Jean-Luc Dehaene discutait avec Wim Kok, Premier ministre des Pays-Bas, il le faisait évidemment en néerlandais. Et comme Wim Kok maîtrisait très bien l'allemand, quand il rencontrait le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, il s'entretenait en allemand. Mais quand ils se voyaient à trois, tout se passait à l'anglais, que chacun parlait moins bien, mais qui servait du plus petit dénominateur commun. Voilà, cette anecdote résume un peu le multilinguisme à l'européenne. Il n'est pas rare qu'on connaisse une seconde langue, mais ce n'est pas la même pour tout le monde. Et en Réunion, c'est encore l'anglais qui a le plus de chances d'être plus ou moins compris et parlé par tout le monde. Autrement dit, François, l'anglais, il n'appartient plus aux Britanniques. Il fait également partie de nous. S'ils s'en vont, les Anglais ne l'emporteront pas dans leur bagage. D'ailleurs, nous pourrons leur dire « goodbye ». And farewell.
And good luck aussi, Pierre Marlet.
Également.
Merci beaucoup.